Radio Kapi. Oh, Kapi. 12h à Kinshasa, le journal Nico Kalambay. À la une de cette édition, 10 quartiers de la ville de Goma sont privés d'eau. Le directeur provincial de la régie des eaux Nord Kivu, qui fait cette alerte, précise que le grand réservoir de 5000 mètres cubes d'eau et d'autres matériels qui approvisionnaient ces quartiers en eau potable ont été endommagés par l'éruption de Nyiragongo le 22 mai dernier. La ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux recommandent aux magistrats d'accélérer le traitement de certains dossiers dont sont saisis les cours et tribunaux. Rose Mutombo l'a dit au cours d'une séance de travail qu'elle a eue avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature hier lundi à la Cour constitutionnelle. Le coordonnateur humanitaire adjoint en RDC, notre invité Diego Zorila, qui s'exprime sur la situation humanitaire de Beni, appelle à la solidarité internationale pour une assistance à ses déplacés qui sont dans un besoin humanitaire criant à cause de l'insécurité. Bienvenue à tous à l'écoute de ce journal. Au Nord Kivu, au moins 10 quartiers de la ville de Goma et ses environs ne seront pas approvisionnés en eau potable pendant plusieurs jours encore. Le directeur provincial de la régie des eaux Nord Kivu, qui fait cette alerte, précise que le grand réservoir de 5000 mètres cubes d'eau et d'autres matériels qui approvisionnaient ces quartiers en eau potable ont été endommagés par l'éruption de Nyiragongo du 22 mai dernier. Il estime à plus de 10 millions de dollars le coût de réparation des dommages causés sur ces installations placées sur la colline de Bouchala, en territoire de Nyiragongo. David Angoyo fait un appel à l'aide au gouvernement congolais et ses partenaires. Il explique ici au micro de Bernardin Yanki.
L'éruption du volcan de Nyiragongo a suivi presque les mêmes itinéraires qu'il y en avait en 2002. Et c'est dans ces mêmes quartiers collinaires qui sont très loin du lac où se pose la problématique d'accès en eau potable. Ils seront en difficulté parce que dans son passage, les laves ont réussi à causer des dommages ravagés. Notre site important qui est plus au nord dans les territoires de Nyiragongo, ce site-là s'appelle Bouchara qui contient trois grands réservoirs. Sur les 6400 mètres cubes, nous venons de perdre rien qu'un module important des 5000 mètres cubes. Il ne s'est pas arrêté là en descendant. Les larves se sont déposées sur un tronçon avant d'entrer au niveau du réservoir d'environ 1200 mètres de tuyaux en plastique. Et ce qui fait que l'alimentation en eau potable dans ces vastes quartiers de la ville Goma, partie nord, est coupée. Le coût est énorme. On est parti sur une estimation d'environ 10 millions, 200 000 dollars américains. C'est vraiment un problème, une urgence qui demande une attention, l'implication à tous les niveaux.
David Angoyo affirme qu'une équipe est déjà à pied d'œuvre pour trouver une solution provisoire pour faire accéder la population de ces quartiers en eau potable. C'est notamment les quartiers Mabanga Nord, Virunga, Katoi, Kasika, Majengo, KMB dans la ville de Goma ainsi que Bujovu, Munigi, Turunga et Bouchala dans le territoire de Nyiragongo. Toujours au Nord Kivu, le parc national des Virunga suspend toute activité touristique consécutivement à l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Dans un communiqué parvenu hier à Radio Kapi, la direction de ce site du patrimoine mondial avance d'autres motifs justifiant cette disposition. C'est entre autres la mesure de fermeture temporaire de l'aéroport de Goma qui est susceptible de perturber la venue des touristes. Bernard Nyangi.
Selon ce communiqué du parc national de Virunga, cette mesure de suspension des visites touristiques concerne plus l'ascension sur le volcan Nyiragongo. Cela au vu notamment de nombreuses fissures apparues le long des flancs de cette montagne volcanique. Ce qui estime la direction de ce site aura immanquablement un impact sur l'activité touristique dans la région. Le sommet du volcan Nyiragongo étant une des destinations phares du parc. L'ICSN indique aussi que depuis l'éruption du volcan, plusieurs annulations des réservations pour les semaines à venir ont d'ores et déjà été reçus par la direction du parc. Il faut ajouter aussi que la coulée de lave du volcan a coupé la route nationale numéro 2 reliant Goma Kiwanja Lubero Butembo sur une longueur d'au moins 800 mètres au niveau de Nyiragongo, ce qui rend cette route impraticable jusqu'à nouvel ordre, coupant ainsi le quartier général du parc à Rumangabo d'un accès routier à la ville de Goma. Signalons que cette suspension intervient alors que le tourisme dans le plein vie était déjà ralenti suite à la succession de crises sanitaires, Ebola, Covid-19, etc., mais aussi le kidnapping des deux touristes en 2018 et récemment la proclamation de l'état de siège au Nord Kivu, Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts causés par l'éruption samedi 22 mai du mont Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Le secrétaire général est préoccupé par le fait que cette catastrophe survient à un moment où les besoins humanitaires augmentent dans la région, alimentée par l'insécurité exacerbée par la pandémie de la Covid-19 et son impact sanitaire et socio-économique, a dit son porte-parole dans une déclaration de presse publiée lundi. L'ONU et l'ensemble de la communauté humanitaire en RDC s'emploient déjà à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour venir en aide aux personnes touchées par l'éruption en leur fournissant une aide humanitaire d'urgence. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
La MONUSCO a également mobilisé ses moyens aériens pour suivre la situation et travaille avec les autorités pour s'assurer que la population est tenue informée de tous les développements connexes. Lundi, le directeur de l'Observatoire volcanique de Goma, Kasereka Mainda, expliquait dans une vidéo publiée par la MONUSCO que les coulées de lave avaient cessé mais que les tremblements de terre continuent. Plusieurs villages ont été affectés suite à l'éruption du volcan Nyiragongo à l'est de la RDC. Il est à craindre que de nombreuses personnes soient sans abri, a déclaré lundi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, qui mène avec ses partenaires une mission pour évaluer les besoins humanitaires dans les zones touchées. Les équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF sont mobilisées pour réunir les enfants séparés de leur famille alors qu'ils fuyaient l'éruption du volcan Nyiragongo. Le bureau de l'Organisation mondiale de la santé OMS en RDC a réitéré son engagement à apporter l'appui nécessaire aux autorités pour évaluer rapidement les besoins et sauver des vies. Par la voix de son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des personnes touchées, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la RDC.
Pendant ce temps, au sud Kivu, la compagnie aérienne Congo Airways annonce la reprise de ses vols à partir de l'aéroport de Kavumu, une décision qui fait suite à la fermeture provisoire de l'aéroport de Goma suite aux effets du volcan de Nyiragongo. Mais quelle est la capacité actuelle de l'aéroport de Kavumu au sud Kivu? Emmanuel Elamejoua Kamedi.
L'aéroport de Kavumu date des années 1967-68. Il s'appelait aéroport Michombero du nom du président burundais de l'époque. La piste de l'aéroport de Kavumu est actuellement de 2000 mètres, ce qui ne permettrait pas aux gros appareils d'y atterrir. Et pourtant, les experts en témoignent que des compagnies aériennes de ces pays ont autrefois exploité cet aéroport avec des gros avions.
Les dimensions ne sont pas assez suffisantes. Hein. La piste est disponible à 2000 mètres. On peut envoyer des avions, mais alors on doit diminuer les chargements. Dans les temps, les avions venaient, les 727 venaient ici. Et Wabora venait ici. Et Rahir aussi, Kwate Bukavu, à cette Boeing 727 pendant longtemps. Bravo Air Congo. Bravo Air Congo venait ici. Il va venir à décoller avec 120 passagers de Bukavu.
Depuis hier soir, la compagnie aérienne Congo Airways demande à tous ses passagers au départ de Goma à prendre désormais leur vol à partir de l'aéroport de Kavumu. La régie des voies aériennes de Kavumu ne disposant même pas d'une tour de contrôle propre. Les agents de la RVIA Kavumu exploitent les installations de la MONUSCO pour les communications. Toutes les autres infrastructures dignes font défaut à l'aéroport de Kavumu au sud Kivu. Emmanuel Elamejoua Kabidi, Bukavu Radio Kapi.
Nous venons de l'apprendre, l'aéroport de Kavumu au sud Kivu vient encore d'être fermé à tout trafic aérien. Décision prise ce mardi 25 mai par le ministre des Transports et Voies de Communication. Il se dit se référer au rapport des experts membres de la Task Force mise en place depuis l'éruption du volcan de Nyiragongo à Goma. Il y aura encore des effets capables d'affecter les appareils survolant l'espace aérien de Bukavu. Au sud Kivu, toujours une nouvelle montée des eaux sur du lac Tanganyika occasionne des dégâts énormes sur le littoral de la ville d'Uvira. Ces inondations ont été observées hier lundi à partir de la mi-journée jusque le soir dans plusieurs quartiers qui longent la partie côtière entre Kilomoni et Kalundu vers le port public où l'accès sur la route nationale numéro 5 devient impossible pour les gros camions. La situation a perturbé les activités hier lundi au quartier général de la MONUSCO où les murs construits par les ingénieurs chinois sont complètement détruits par les vagues du lac Tanganyika. Fiston Goma.
Les eaux ont pénétré jusqu'à près de 50 mètres à l'intérieur des installations de la Monisco. Les systèmes informatiques électriques ont été déconnectés pendant plus de 3 heures pour éviter les dégâts. À la frontière des Kavivira, motos et piétons ne peuvent pas traverser l'espace entre la barrière de la DGDA et le poste de la DGM en face du Burundi. Les eaux du lac et les eaux des marais Nyangara et Kaorooro se sont embrassées sur cette route. À Kilomoni, le centre hospitalier Mario Vanucci est complètement inondé. Le matériel et équipements de cet hôpital ont été déplacés vers le centre Maendelo côté Nyangara. Les dégâts sont énormes à Ouragan Beach, à Karibou Lodge, au Grand Hôtel 3 étoiles de Bahari Beach, au Vilai Lac et dans d'autres plages les plus branchées de la ville. À Kasenga, les ports privés du Feki Dogé et celui de l'ingénieur Gabi, les concepteurs de l'hydravion à coque, sont tous engloutis par les eaux. Les eaux du lac ont progressé sur les avenues jusqu'à la route nationale. Côté Kimanga et Nyamianda, l'évêché est sous l'eau. L'auberge Eden City, l'église El Shaddai, les grands hôtels Plage d'Or de Kankezo sont sous une abondante eau. Tous ces sites sont abandonnés, signalant qu'aucune précipitation n'a été observée ces jours-ci dans la région, ni sur les montagnes. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Le nombre de décès dans les rangs des casques bleus dans les différentes missions de maintien de la paix au monde a diminué ces dernières années. S'est félicité le chef des opérations de paix des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a été lundi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et a également salué les réponses plus rapides des casques bleus contre les menaces. D'autres détails de la déclaration du haut fonctionnaire de l'ONU avec Honoré Missenga Kalala.
Le chef des opérations de paix a notamment fait état des progrès notables réalisés avec l'amélioration des capacités des missions onusiennes. Il a cité l'exemple de la MONUSCO qui recourt à des unités spécialisées telles que l'unité de surveillance aérienne tactique sans pilote. Cette unité de surveillance contribue à améliorer le renseignement de maintien de la paix, la connaissance de la situation et l'alerte rapide, a-t-il laissé entendre. Autre embellie soulignée par Jean-Pierre Lacroix concerne la gouvernance judiciaire des pays hôtes. Là aussi, le numéro 2 de l'ONU a noté des progrès faits pour aider ces pays dans leurs efforts de traduire en justice les auteurs des crimes contre les soldats de la paix, notamment en RCA, au Mali et en RDC. En dépit des progrès réalisés, M. Lacroix a néanmoins reconnu que les casques bleus continuent d'opérer dans des environnements complexes où ils font face à un nombre croissant d'attaques par des acteurs hostiles. 15 soldats de la paix ont perdu la vie cette année depuis janvier à cause d'actes malveillants, a-t-il notamment fait savoir.
Le désengorgement des prisons et tant d'autres questions judiciaires ont été au menu d'une séance de travail entre la ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature hier lundi à la Cour constitutionnelle. Rose Mutombo a recommandé aux magistrats d'accélérer le traitement de certains dossiers dont sont saisis les cours et tribunaux. Le point avec vous, Jeff Ngoy.
La ministre d'État demande au CSM d'instruire les parquets à envisager en conformité avec la loi des mesures d'assouplissement pour toute détention préventive ayant excédé 3 mois ou d'envoyer les dossiers en fixation. À défaut d'ordonner la libération des détenus qui n'ont aucun titre justifiant leur présence dans un établissement carcéral. Pour les détenus préventifs déjà à la disposition des cours et tribunaux, Rose Mutombo recommande la célérité. Croit-elle avoir été comprise? Voici son compte-rendu.
On a eu à échanger sur la situation sociale des magistrats, sur les procédures, sur la discipline des magistrats, ainsi que sur la situation carcérale qu'on trouve dans nos différentes prisons. Je crois que les uns et les autres ont pris l'engagement de faire ce qui est à leur droit.
Toujours dans le cadre du désengorgement, la garde des Sceaux annonce pour les prochains jours le transfèrement de certains pensionnaires de la prison centrale de Makala à Luzumu et de la prison militaire de Ndolo à Angenga. S'agissant du social des magistrats, la ministre dit s'impliquer dans la poursuite de l'examen du cahier des charges des magistrats afin d'apporter de manière progressive des solutions à leurs attentes.
Les procès sur les massacres de Yumbi dans la province de Maïndombe débutent ce mardi 25 mai à Ndolo, ici à Kinshasa. Ce procès concerne les auteurs présumés des événements qui se sont déroulés le 16 et le 17 décembre 2018. Retour sur les faits avec notre spécialiste de la question de Yumbi, Paul Matendo.
Les événements qui ont conduit aux violences concernent deux communautés, les Banounou et les Batindé. Les tensions ont commencé après la mort du chef des Banounou, Mantoma Fedor. Celui-ci est décédé ici à Kinshasa pendant un séjour privé le 2 décembre 2018. Alors la question, pourquoi sa mort devrait-elle provoquer des tensions? Tout simplement parce que sa communauté a jugé bon de l'enterrer dans la parcelle familiale, là où fut inhumé son père. Ce qui était mal perçu par les Batindé, ils se sont donc opposé à ce type d'enterrement. Entre-temps, du côté des Banounou, les préparatifs vont bon train pour l'enterrer sur les sites choisis. Dans la cité, des rumeurs courent de partout sur des représailles si jamais telle inhumation devrait avoir lieu. Qu'à cela ne tienne, dans la nuit du 14 au 15 décembre, Mantoma Fedor est inhumé à côté de son père. En date du 16 décembre, un premier assaut va avoir lieu dans la cité de Yumbi. Les jours suivants, les villages Nkolo de Bongende seront attaqués et incendié. Le rapport des Nations Unies publié en mars 2019 fait état de 535 morts et plusieurs déplacés, alors que celui du ministère congolais des droits humains affirmait, je cite, « Les autorités politico-administratives de Maïndombe auraient dû prendre des mesures pour éviter ces événements. » Fin des citations.
Actualité internationale.
La Mauritanie s'est dotée de sa première alliance nationale de lutte contre la corruption. Elle a été créée dimanche dernier à l'issue d'un congrès au Centre international de Nouakchott et s'est fixée notamment pour mission de faire la lumière sur les fonds publics supposément détournés les 10 dernières années de la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz. 4 jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et les groupes armés palestiniens, le chef de la diplomatie américaine est arrivé à Tel Aviv ce mardi 25 mai. Il entame une tournée au Proche Orient qui l'amènera également dans les territoires palestiniens, en Égypte et en Jordanie. Une première tournée régionale pour le nouveau secrétaire d'État américain dictée par l'urgence. Anthony Blinken vient veiller à la consolidation du cessez-le-feu conclu la semaine dernière.
L'invité.
Notre invité est le coordonnateur humanitaire adjoint en République démocratique du Congo, Diego Sorila, qui s'exprime sur la situation humanitaire de Beni, appelle à la solidarité internationale pour une assistance à ces déplacés qui sont dans un besoin humanitaire criant à cause de l'insécurité. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Diego Sorila, bonjour.
Bonjour, Martial.
Vous venez de séjourner à Beni. Parlons de la situation humanitaire dans la région. Comment vous évaluez cette situation actuellement à Beni-Boutembo-Loubero?
Le territoire de Beni reste un des territoires le plus affectés, le plus impacté par le besoin humanitaire dans toute la République du Congo. Il y a près de 900 000 personnes déplacées dans le territoire de Beni à cause des affrontements armés et à cause de différentes situations. Rien que depuis entre le mois de novembre et maintenant, il y a près de 200 000 personnes qui se sont déplacées sur le territoire de Beni. Donc ces personnes-là souffrent de carences énormes. Et moi, je plaide pour que la communauté humanitaire puisse faire son travail, qui est celui de venir en aide de cette population. Maintenant, cette aide n'est jamais suffisante. Nous, ce qu'on veut, c'est que la paix revienne. C'est notre plus grand souhait. Mais entre-temps, il faut qu'on puisse continuer à venir en appui à la population vulnérable qui en a besoin, avec les programmes habituels d'assistance alimentaire, de nutrition, d'accès à l'eau, d'accès aux latrines, de santé, de protection.
Dans la région de Beni, il n'y a pas vraiment de camps de déplacés. Et la plupart des déplacés vivent dans des familles d'accueil.
C'est correct.
Comment font les humanitaires pour les assister?
C'est bien sûr plus difficile, parce que c'est plus difficile de les identifier, mais il y a des mécanismes d'enregistrement et d'identification qui, évidemment, peuvent avoir des failles, parce qu'ils se basent sur la coopération des comités de déplacés, des autorités locales, des différentes personnes qui connaissent la réalité de ces communautés pour réaliser des enregistrements. C'est comme ça qu'en janvier, à la fin janvier, moi j'étais ici pour justement parler au niveau national des besoins de la population vulnérable du territoire de Beni. Et NRC, une des ONG, avait fait avec le département des affaires sociales de la mairie un enregistrement de 11 000 ménages déplacés sur le territoire de Beni et qui étaient dans des familles d'accueil. Et j'ai rencontré aussi les familles d'accueil et j'ai rencontré les personnes qui étaient accueillies dans ces familles d'accueil. C'est plus difficile, bien sûr, que dans un camp de déplacés. Parfois, les conditions de vie dans ces familles d'accueil sont difficiles aussi, mais on essaye d'arriver avec de l'assistance qui est toujours insuffisante.
Êtes-vous au courant de la situation de plusieurs enfants déplacés qui n'ont plus accès aux écoles, mais également de plusieurs femmes enceintes qui n'ont pas accès facile aux soins de santé primaire?
Oui, je suis au courant de comment l'interruption de l'action humanitaire pendant plusieurs semaines à Beni, sur le territoire de Beni, a impacté non seulement la ville de Beni, mais aussi tout le territoire, parce que beaucoup de nos actions partent de Beni pour partir dans d'autres endroits. Et ceci s'est traduit dans la perte de vie, malheureusement. On a dû interrompre des programmes essentiels de nutrition des enfants. On voit maintenant l'éducation avec des écoles qui ont été pillées, des écoles qui ont été abandonnées, et puis des écoles qui ont été occupées par des déplacés. On voit maintenant comment le calendrier scolaire est complètement altéré. On n'a pas pu faire les distributions d'aliments qu'on avait prévues et qu'on voulait faire avec l'identification de bénéficiaires sur le territoire de Mabalako et aussi ici sur la ville de Beni. Tout ceci, c'est conséquence de la paralysie de nos opérations qui s'est traduite dans la perte de vie humaine.
Et comment vous évaluez les besoins prioritaires des déplacés dans la région de Beni?
Tout dépend des situations. Il y a des déplacés qui sont en situation de retour. Ils ont besoin d'un appui pour le retour. Il y a d'autres qui sont dans une situation de premier déplacement et il y a d'autres qui sont là depuis il y a quelques mois. Typiquement, lorsqu'une population se déplace, il y a besoin d'un appui d'urgence. Couvrir les besoins des premiers deux mois en vivres, en articles ménagers essentiels, en accès à l'eau et en accès aux soins de santé, avec un suivi spécifiquement de la nutrition et des femmes enceintes pour qu'elles puissent accoucher. Ça, c'est les besoins les plus prioritaires typiquement. Mais typiquement, les déplacés qui sont en milieu urbain, ils ont besoin de cash, parce qu'ils ont besoin de pouvoir subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux dans un milieu urbain. Et ça, normalement, ce sont des services qui s'achètent.
Avez-vous suffisamment de moyens pour continuer d'assister ces déplacés?
La réponse est non. On a reçu l'année dernière 40% de l'argent qu'on avait demandé. C'est-à-dire que, donc, on avait demandé 2 milliards, on a reçu environ 800 millions, environ 40% de ce qu'on avait demandé. Pour cette année, les financements à l'heure actuelle sont environ à 11% et nous sommes déjà au mois de mai. Donc, justement, moi, mon plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, c'est de continuer à donner les ressources. Ce que je voudrais, c'est que le gouvernement congolais puisse mettre des ressources pour l'assistance humanitaire de sa population. Ils essayent de le faire aussi, mais les ressources de l'État sont très limitées. Donc il y a un appel à une plus grande solidarité envers les Congolais, parce que c'est la deuxième ou troisième crise humanitaire au monde. Et dans le Congo, moi je fais un appel spécifique pour le territoire de Beni, parce que je sais que la population de Beni continue à attendre beaucoup d'un appui qui est nécessaire lorsqu'ils ont dû fuir leur territoire à cause de l'insécurité.
Diego Zorila, merci.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève cette session de nos informations sur Okapi. Merci à tous de l'avoir suivi. Mimi Kindou était à la mise en onde. Élisée Chikota a coordonné ce journal, supervisé par Alain Hirung. Je me nomme Nico Kalambay. L'actualité continue sur le www.radiookapi.net et sur toutes les plateformes numériques. Je vous souhaite de passer un excellent mardi sur Okapi.